introduction, nous avons dit quelques mots sur Plotin pour comprendre comment le problème de la création, de l'émanation, se posait dans la perspective des néoplatoniciens. Il faudrait regarder Proclus ici, c'est intéressant, mais nous n'avons pas le temps. Je regarde tout de suite, si vous voulez, ce que devient le problème de la création chez les théologiens. Et là, spécialement saint Thomas, puisque nous n'allons pas suivre le traité de la création de saint Thomas, mais je crois qu'il est quand même bon à cette occasion d'essayer de voir comment saint Thomas se pose le problème de la création en théologien. Alors il faudrait regarder avant comment ce problème de la création s'est posé chez saint Augustin, dans une perspective assez néoplatonicienne de Platon. Comment il s'est posé avec Albert le Grand, et puis avec saint Thomas. Alors, pour aller plus vite, je regarde directement dans saint Thomas. C'est prima pars, question 44 à question 49. C'est une très très belle question de saint Thomas, peut-être une des plus belles, où on voit plus le génie de saint Thomas au point de vue métaphysique. Je crois que c'est une des questions qu'on doit aimer beaucoup à regarder, à revenir souvent, parce qu'elle est difficile, elle est très difficile, parce qu'elle est métaphysique. C'est cette question-là qu'aujourd'hui on ne veut plus regarder. Ça, c'est sûr, les théologiens n'aiment pas beaucoup saint Thomas traitant la création, parce que c'est difficile de comprendre ce que nous dit saint Thomas traitant la création si on n'a pas une métaphysique très présente. Si on n'a pas une métaphysique très présente, c'est très très difficile. C'est un des lieux importants à voir, vous voyez. Alors, je crois que c'est bon de nous attarder un tout petit peu, comme pour la personne, sans voir vraiment ce que nous, le commentaire de saint Thomas directement, du moins sans faire un commentaire direct de saint Thomas, voir quand même la perspective de saint Thomas sur le problème de la création. Alors, voyons rapidement, de la naissance des choses, de processione creaturarum ad eo. Donc, saint Thomas prend le terme de procession, ce qu'il prend à propos du traité de la Très Sainte Trinité. Alors on traduit de la naissance, c'est pas tout à fait ça. C'est de la procession des créatures par Dieu et au sujet de tout être provenant de la première cause. Et saint Thomas souligne tout de suite, après l'étude des personnes divines, après la procession des personnes divines, il faut considérer le reste de la procession des créatures à Dieu. Alors je crois que c'est très intéressant de voir que tout de suite le théologien emploie le mot procession. Le mot procession en théologie, vous verrez en théologie sur la très sainte Trinité, et il emploie le même mot, très très curieux, par rapport à la création. Post processionem divinarum personarum, considerandum restat de processio creaturarum adeo. Est totem consideratio triparti. Donc on a trois parties pour regarder cette procession. Donc c'est la procession. Alors il faut se demander pourquoi. Le mot procession pour la très sainte Trinité, c'est facile à comprendre. Ego processi. C'est directement dans la révélation, c'est directement dans saint Jean. Donc, c'est par là que j'entre dans le mystère de la Très Sainte Trinité, par le mystère des processions. Jamais l'oublier. Alors, comme le mystère des processions s'étend au mystère des missions, la procession, j'en ai l'expérience divine par le mystère des missions. Donc, de la mission, je rejoins la procession, ou de la procession, je rejoins la mission. Les deux peuvent se comprendre. En théologie mystique, on regardera avant tout le point de vue de la mission, et de la mission, on rejoindra les processions. En théologie scientifique, on va de la procession à la mission. Donc ça, c'est le traité de la très sainte Trinité. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit de la création, j'emploie le même mot? C'est jamais dit dans l'Écriture. Jamais dit dans l'Écriture. Dans l'Écriture, on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais de la procession pour la création. Bon, le mot, le faire, le mot, c'est du reste très difficile parce qu'il n'y a pas de mot consacré par rapport à Dieu. C'est beaucoup plus l'action de Dieu, c'est le faire de Dieu, ce n'est pas la procession. Donc le théologien en faisant ça fait une option théologique. Ce n'est pas à partir de l'Écriture. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Ce n'est pas à partir de l'Écriture. Quand c'est l'Écriture qui nous le dit, c'est très simple. Le théologien, par sa foi, adhère à l'Écriture. Mais quand le théologien prend un mot qui n'est pas de l'Écriture, il le fait en raison de sa théologie. Et donc en raison d'un ordre. Le propos du sage qui leur donnait. En raison d'un ordre. La première procession commande la seconde procession. Vous voyez, la première procession, la procession au niveau de la très sainte Trinité, qui s'achève dans les missions, présuppose la mission présuppose la création. Or, la mission implique la procession, et donc on va, je crois, c'est comme ça qu'on est arrivé à ça, hein. Je mets une hypothèse ici de recherche, si vous trouvez une autre une hypothèse, vous me le direz. C'est intéressant de voir pourquoi saint Thomas met le mot procession. Alors que moi j'ai mis le mot création. Tout simplement, traité de la vie, il prend procession. Alors je crois procession, mission. La mission, c'est envoyée à la créature. C'est la créature qui va recevoir la créature rationnelle, qui va recevoir la mission. Et donc, cette mission qui présuppose la procession va impliquer une procession fondamentale. Et la procession fondamentale, c'est la création. Oui. Alors, on voit comment, vous allez voir du reste, comment le mot émanation, qui est néo-platonicien, va être présent dans tout le traité de la création. Et c'est peut-être là aussi, vous voyez, émanation, procession, c'est pour essayer de lier les deux. Alors, est-ce que c'est pour me donner une nouvelle lumière de la création, en voyant que la création, pour le théologien, va s'éclairer par le mystère de la très sainte Trinité? Et le mystère de la très sainte Trinité, c'est le mystère des processions et des émanations. Alors, la création est vue dans cette lumière de la très sainte Trinité. Oui, il y a un petit problème qui se pose au point de vue du langage. C'est intéressant de se poser le problème. Je ne fais pas plus ici. Mais c'est intéressant parce qu'on montre tout de suite que le théologien se pose le problème de la création dans la lumière de la très sainte Trinité. Oui. Donc, tout à fait différemment que peuvent se faire les philosophes. Tout à fait différemment. Il nous reste à étudier la naissance des êtres issus de Dieu. Donc cette considération va impliquer trois parties. Premièrement, de la production des créatures. Alors, de productione creaturorum. Donc on parle de la procession à la production. Attentif au terme. Il est bien évident que je ne peux pas parler de la production du Fils dans la très sainte Trinité. Je parle de la procession. Et ici, tout de suite, de la procession, je parle de la production. De productione creaturarum. Secondo, de distinctione. Donc, premièrement, la production. Deuxièmement, la distinction. Et au fond, quand je regarde la très sainte Trinité, je regarde les processions et puis je regarde les distinctions des processions. Vous voyez, vous trouvez un ordre semblable. Et troisièmement, de la conservation ou du gouvernement. Conservation ou gouvernement. Donc voilà les trois grandes questions. qui commande tout le traité sur le mystère de la création. Donc, auprès du premier, c'est-à-dire auprès de la production, il y a trois choses à regarder. Premièrement, quelle est la première cause des êtres? Vous voyez comment on arrive, au sujet de la production. Quelle est la première cause des êtres? C'est ça qui irrite le plus les gens d'aujourd'hui, hein? Que tout de suite, saint Thomas pose la question de la cause, la causalité. Quelle est la première cause des êtres? Deuxièmement, le mode de procéder. Le mode de procéder des créatures à partir de la première cause, la prima causa. Et troisièmement, au sujet du principe de la durée des choses. C'était aussi très intéressant de voir que la production, voilà la production, vous voyez, le traité sur la production des choses, donc le traité de la création proprement dit. Parce que la distinction, c'est quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est ça, hein. C'est la production. Comment, de fait, les choses émanent de Dieu. Comment, de fait, les choses émanent de Dieu. Le théologien et le croyant assistent à la création. Pas le philosophe. Mais dans la foi, j'assiste à la création. Et donc, je dois me demander comment les choses proviennent de Dieu. Je me demande ça tout de suite. Donc, la question première, hein, tout de suite, la question première du théologien, c'est au sujet de la cause première. Nous portons quatre problèmes au sujet de la cause première. Vous voyez, la déduction, hein, c'est ça que je veux que vous compreniez, parce que c'est quand même très intéressant à voir. Si vous regardez tout de suite la création, procession, mission, procession, production, cause. Et une fois que j'ai la cause, nous allons voir tout de suite les quatre causes. Dieu est-il cause efficiente? La première cause, Dieu est-il cause efficiente de tous les êtres? La cause matérielle. La matière première est-elle causée par Dieu? Dieu est-il cause exemplaire? Dieu est-il cause finale? C'est extraordinaire. Tout de suite, la première question sur la création, les quatre causes. Évidemment, la signature d'Aristote est peut-être présente. Hein. C'est assez ennuyeux, hein, de voir qu'il y a tout de suite, saint Thomas, pour le problème de la production des choses, c'est la cause première, et tout de suite, cette distinction cause efficiente, cause matérielle, cause exemplaire, cause finale. Vous comprenez, quelqu'un qui n'a absolument aucun sens de ce que c'est qu'Aristote, quand il se voit de ça, il dit quoi? Qu'est-ce que fait saint Thomas? Qu'est-ce que fait saint Thomas? C'est une projection, j'ai entendu ça, c'est pour ça que je vous le dis. C'est une projection sur un domaine de foi de toute la métaphysique. Et c'est vrai qu'à première fois, on ne peut pas nier que ça vous donne un petit peu la nausée métaphysique. Hein. Si vous n'aimez pas la métaphysique, évidemment, ça vous donne tout à fait ça. Ça ne peut pas être autrement. Vous commencez tout de suite le problème de la création par la causalité. C'est un vraisemblable, ça. Alors, vous voyez, depuis Kant, la causalité a une nouvelle signification. La causalité, c'est les lois. Je ne peux pas l'appliquer à Dieu. Impossible, il ne faut pas appliquer la causalité à Dieu. Si je suis qu'ancien, c'est impossible. Or, de fait, il faut bien voir que depuis Kant, la causalité pour la résonance des gens, donc pour nous, parce qu'on est tous un peu conscients, n'est-ce pas tous ? On est cartésien, on est kantien, on est hegelien, tous un peu. Alors, la résonance de ça, il faut dire, mais pourquoi ? Dieu est-il cause première ? La création, vous voyez, pour saisir la création de Dieu, je remonte à la causalité. Alors, je vous dis bien, procession, production, causalité. C'est assez intéressant comme précision. Hein? Parce que procession, je suis dans la ligne de la très sainte Trinité. Production, c'est un mode particulier. Causalité, en pleine métaphysique. Très déroutant. Très très déroutant, ça, il faut le remarquer, il faut remarquer pour notre mentalité d'aujourd'hui, pour la mentalité des philosophes d'aujourd'hui et des théologiens d'aujourd'hui, le traité de la création, c'est le traité le plus ennuyeux possible, parce que c'est celui où intervient immédiatement votre métaphysique, immédiatement. Je crois que vous ne pouvez pas lire ces traités de saint Thomas si vous n'avez pas un certain sens métaphysique, hein, surtout cette question première. Alors on va voir les deux questions premières, les deux questions, c'est la seule chose à voir au point de vue métaphysique, donc la seule chose qui nous intéresse directement, c'est de voir que comment saint Thomas va attribuer à Dieu créateur la causalité. Et comme il n'a pas une intuition de cela, il va appliquer les trois causalités. Dieu est cause efficient, Dieu est cause exemplaire, Dieu est cause finale. Alors, Dieu n'est pas cause matérielle, mais la matière est causée par Dieu. Alors, voyons tout de suite, article 1er de cette question 44. Tout être est-il nécessairement créé par Dieu ? Dieu est-il cause efficient de tous les êtres ? Tout fut par lui. Donc c'est ce tout fut par lui dont il s'agit d'avoir l'intelligence. Quand je dis tout fut par lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est cause efficient de tout. L'apôtre nous dit de lui, par lui, en lui, sont toutes choses. C'est curieux qu'il n'ait pas mis le texte de saint Jean, qui me semble plus fort que le texte de saint Paul, en disant de lui, par lui, en lui, sont toutes choses. C'est plus englobant. Tandis que le texte du prologue de saint Jean est très fort. Alors voici le raisonnement de saint Thomas. On doit dire nécessairement que tout être, de quelque façon qu'il est l'être, est causé par Dieu. Tout être. En effet, ce qui se trouve participé en quelque chose doit nécessairement y être causé par ce qui possède cet attribut en vertu de son essence. Comme le fer est mis en munition par le feu. De plus, or plus haut, en parlant de la simplicité divine, nous avons montré que Dieu est l'être même par soi subsistant. Et plus loin, nous avons prouvé que l'être subsistant ne peut être qu'unique, comme la blancheur, si elle subsistait en soi, ne pourrait manquer d'être unique, vu que la multiplication des blancheurs tient au sujet qui la reçoit. Il reste donc que tous les êtres, sauf Dieu, ne sont point identiques à leur être, mais participent l'être, participent l'essai. C'est l'essai. Et il s'ensuit nécessairement que toute chose diverse en raison de diverses participations de l'être, que toutes choses de ce fait, plus ou moins parfaites, sont causées par un seul être qui, lui, est en toute perfection et en toute plénitude. Ce qui a fait dire à Platon qu'ayant toute multitude, qu'avant toute multitude, il est nécessaire de posséder l'unité. Et à Aristote, que ce qui est souverainement être et souverainement vrai sont aussi cause de tout être et de tout vrai, comme ce qui est chaud par excellence est cause de toute chaleur. Comme c'est curieux cet article. Hein. Vous voyez la clé de l'article, hein, j'espère que vous l'avez vu, c'est la participation. Le métaxu. Le métaxu, pour montrer que tout ce qui est dans un état de dépendance à l'égard de Dieu, tel que Dieu est coefficiente. C'est ça le raisonnement de saint Thomas. Il s'agit de montrer que tout ce qui existe, est un état de dépendance vis-à-vis de Dieu, d'une manière telle que Dieu est cause efficiente de ce qui est, et cause efficiente de leur être. Alors, qu'est-ce qu'on va saisir comme métaxu? Le problème de la participation. On va dire que toute chose qui n'est pas l'être premier, participe l'être premier, participe son essai. Il a laissé participer. Et ceci, c'est la conclusion directe de la simplicité de Dieu. Donc on renvoie à la question 3. Il y a un lien direct, c'est ça qui est très très curieux, il y a un lien direct entre la question 3 sur la simplicité et la question 44. La question 44 implique la question 3, où on montre que Dieu est souverainement simple, c'est-à-dire qu'en lui, l'ipsum esse subsiste. Dieu est l'ipsum esse subsistance. Il est l'existence qui subsiste. Il est celui qui subsiste dans son être. Si Dieu subsiste dans son être, toutes les autres réalités autres que Dieu participent leur esse. Vous voyez que saint Thomas ne dit pas ça du tout en fonction d'une expérience. Vous n'avez pas l'expérience d'avoir un essai participé. Tapez-vous bien de tout et vous n'arriverez pas à découvrir que vous avez un essai participé. Très important à comprendre ça. Votre essai, votre existence, elle est participée. Mais vous n'en avez pas l'expérience immédiate. Si vous en avez l'expérience immédiate, il n'y aurait pas d'athée. Vous aviez l'expérience immédiate d'une créature. C'est une expérience assez particulière. Court-circuit, vous toucheriez immédiatement l'influence de Dieu sur vous, vous toucheriez immédiatement ce don que Dieu vous fait laisser. Vous n'avez pas l'expérience de ça, mais vous l'affirmez directement du fait même que Dieu est absolument simple. Si Dieu est absolument simple, toutes les autres réalités ont un essai participé. Parce que l'ipsum esse subsistens peut être unique. Donc toutes les autres réalités participent à l'essai. Donc conclusion de la simplicité de Dieu. C'est ça qui est important à saisir. Hein. Conclusion de la simplicité de Dieu. Dieu est absolument simple dans son existence. Toutes les autres réalités sont participées dans leur existence. Si toutes les autres réalités sont participées dans leur existence, elles dépendent nécessairement d'une première cause efficiente qui est Dieu, qui est le Créateur. Donc vous passez de la participation à la causalité. Alors ça c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question de la causalité de la participation. C'est un article majeur pour ça. Pour voir comment de la participation on remonte à la causalité. La causalité, La participation, c'est une manière d'exister. C'est Damasius. Dis Damasius qui le dit. J'étais heureux une fois que j'ai trouvé ce texte dans Damasius. Parce que Damasius dit textuellement que la participation, c'est une manière d'exister. Impose. Vous existez dans votre existence de cette manière imparfaite qui est d'être un être participé. Tandis que Dieu existe dans son existence de cette manière parfaite, absolument simple, qui ne dépend d'aucun autre. Tandis que par la participation, vous dépendez. Tout ce qui est participé est second, et donc dépend d'un premier. S'il est participé, il est donc causé. Ça, c'est très très important de saisir le passage de cette manière d'exister à la causalité. La causalité, c'est un principe. Et la participation est une manière d'exister. Une fois que vous avez saisi ça, vous pourrez comprendre le raisonnement de saint Thomas. La participation est une manière d'exister, tandis que la causalité est un principe. Et c'est pour ça que je passe de la manière d'exister, qui est d'être participé dans mon essai, jusqu'à la cause première. Dans l'ordre de l'essai. Puisque je participe mon essai est causé par une cause première. Une cause première qui, elle, est parfaite, et dont je dépends totalement. Je ne dis pas comment je dépends d'elle, mais je montre que c'est nécessaire, puisque j'ai mon essai participé. Et j'ai mon essai participé parce que je ne suis pas l'être simple. Vous voyez, c'est très simple comme raisonnement. C'est très simple comme raisonnement, mais c'est très profond, il fallait le découvrir. Il fallait découvrir qu'il fallait passer de la participation à la causalité. Et donc la participation sert de moyen terme. Alors vous voyez, pour ceux qui ont en présence de leur esprit la manière dont nous découvrons l'existence de Dieu, nous avons vu que la manière de découvrir l'existence de Dieu ne passait pas par la participation. Sauf si j'interprète à la manière de certains thomistes, le père Sertilange faisant partie de cela. Alors à ce moment-là, je me sers de la participation pour remonter jusqu'à Dieu. Je vous ai dit, c'est impossible, parce que la participation présuppose l'existence de Dieu, connue, puisque je n'ai pas l'expérience directe de l'être participé. Si j'avais l'expérience directe de l'être participé, je pourrais affirmer immédiatement l'existence de Dieu. Mais je n'ai pas l'expérience. C'est une conclusion. Cette conclusion, je peux m'en servir en théologien pour montrer que tout dépend de la causalité première. Mon existence participée est une existence causée. Et si elle est causée, mon existence, comme il s'agit de l'essai, il s'agit donc de la réalité la plus profonde, elle est causée par une cause première et efficiente. Deuxième article, je vite, hein, je ne prends pas simplement les choses. La matière première est-elle créée par Dieu? Alors, ça va de soi. Saint Augustin dit, tu as fait, Seigneur, deux choses dont l'une est proche de toi et l'autre proche du néant. Manière heideggerienne de saint Augustin. Hein, c'est extrêmement joli. Tu as fait deux choses, l'ange et le néant. Voilà ce que dirait Heidegger. Et saint Augustin dit, tu as fait deux choses, l'une est proche de toi, l'ange, l'autre est proche du néant, la matière première. C'est pas le néant, c'est la matière première. Elle est quand même un petit quelque chose, mais propre et nickel, hein, comme dit saint Thomas. La matière première, c'est propre et nickel. C'est proche du néant. C'est pas encore le néant. C'est ce qui glisse vers le néant. Mettez-vous dessus, ça dérapera. Et vous direz vers le néant. Il faut donc se dire que les anciens philosophes ne sont entrés que peu à peu et comme à tâtons dans la connaissance de la vérité. C'est rare que saint Thomas commence comme ça. C'est un petit petit prélude extrêmement intéressant. Au début, leur esprit peu dégrossi ne concevait. Donc, vous voyez, tous les esprits qui n'arrivent pas à concevoir l'être, ce sont des esprits peu dégrossis. Ils sont multitudes. Alors, vous voyez, au début, leur esprit peu dégrossi. C'est pour ça que les théologiens n'aiment pas se traiter de la théologie de Saint-Denis. Parce qu'ils se disent qu'ils sont des esprits peu dégrossis. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à leur lance-lope. Hein. Au début, leur esprit peu dégrossi ne concevait pas, ne concevait d'être que ceux qui tombent sous les sens. Et parmi eux, ceux qui attribuaient aux êtres le mouvement. Ne le considérait qu'à l'égard de certains états accidentels comme la rareté et la densité produites par l'agrégation ou la ségrégation des parties, supposant la substance des corps incréés, il ne s'occupait que de trouver une cause aux dites transmutations accidentelles, que ce fût l'amour, la lutte, l'intelligence ou autre chose. Progressivement, au-delà, ils apprirent à distinguer rationnellement entre la forme substantielle et la matière, qu'ils dirent incréée, et ils comprirent que dans le monde des corps, il s'opère des transmutations quant aux formes essentielles, substantielles. Dès lors, pour expliquer ces transmutations, ils conçurent certaines causes plus universelles, comme le cercle oblique d'Aristote et les idées de Platon. Mais il est à remarquer que la matière est réduite par la forme à une espèce déterminée, comme une substance d'une certaine espèce est amenée par un accident qui s'y ajoute à un mode d'être plus déterminé encore. Ainsi l'homme par la blancheur. Les uns et les autres n'envisagèrent donc l'être que sous un aspect particulier, soit en tant que tel être, soit en tant qu'être affecté de telle manière, et en conséquence, ils n'assignèrent à toute chose que des causes agentes particulières. Mais d'autres s'élevèrent en outre, jusqu'à considérer l'être en tant qu'être. Donc on est un esprit dégrossi que quand on arrive à concevoir l'être en tant qu'être, c'est-à-dire ce qui est du point de vue de l'être, le « ens in quantum ens ». C'est très beau, ça, de la part de saint Thomas. C'est très rare que saint Thomas porte des jugements comme ça. Mais là, c'est intéressant de voir que, de fait, il porte ce jugement-là. Mais d'autres s'élevèrent, en outre, jusqu'à considérer l'être en tant qu'être, en tant qu'il est être. Ils attribuèrent à toute chose une cause, non seulement selon que les choses sont telles ou telles, mais selon qu'elles sont être. Vous voyez, les trois étapes de l'histoire de la philosophie. Comment saint Thomas les ponctue, c'est intéressant. Les trois étapes. Première étape, on n'arrive pas à distinguer ce qui est essentiel d'accidentel. Deuxième étape, on arrive à distinguer le principe de la substance formelle. Troisième étape, on regarde tout sous le point de vue de l'être. Cela donc, qui est cause des choses selon qu'elles sont être, doit se trouver cause des choses non uniquement comme qualifiées par des formes accidentelles ou déterminées par des formes substantielles, mais aussi selon tout ce qui appartient à leur être, de quelque façon que ce soit. Et ainsi, il y a nécessité d'affirmer que la matière première elle-même est créée par la cause universelle des êtres. Alors, voilà la conclusion de saint Thomas. La matière est elle-même un effet de la création. Pourquoi ? Parce que je m'élève jusqu'à l'aspect de cette causalité qui regarde l'être. L'être en tant qu'être. Je vais pas aller jusque-là. La cause première, efficiente, regarde tout ce qui dépend d'elle sous le point de vue de l'être, et non pas sous le point de vue de tel être. Donc, c'est-à-dire la forme. Elle s'élève plus loin. Elle regarde l'être en tant qu'être. Si elle regarde l'être en tant qu'être, nécessairement, la matière qui est relative à la forme, et qui donc est un certain être, est dépendant de cette cause efficiente première. Mais le petit raisonnement de Saint-Thomas est très intéressant pour réduire, c'est une réduction, c'est pour réduire la matière première à être un effet de la cause efficiente première. Et ceci, en vertu même de cet article, tout dépend de cet être. Tout dépend de cette causalité efficiente. Pourquoi ? Parce que même la matière première, du fait même qu'elle existe, elle a un être participé. Si elle a un être participé, elle a un être second, qui dépend de l'être premier. Ça, c'est très intéressant et c'est très important de voir comment on peut, théologiquement, montrer que la materia prima est nécessairement un effet de la cause première. Donc la suppression de tout dualisme. C'est ça qui est intéressant dans cette théologie de la création, parce qu'on supprime toute espèce de sorte de panthéisme. Le traité de la création, n'est-ce pas, c'est pour essayer de me purifier complètement du panthéisme. Pour essayer de comprendre la dépendance radicale de tout à l'égard de la cause première. Une dépendance actuelle, puisque c'est une dépendance éternelle. C'est une dépendance actuelle. Article 3. Y a-t-il une cause exemplaire en dehors de Dieu ? Alors, on verra avec cet article 3 comment Dieu est cause exemplaire. Vous voyez, ce n'est pas perdre du temps que de voir ça, parce que c'est essayer de comprendre comment un théologien, un grand théologien, élabore ce traité de la création qu'il reçoit de la foi et qu'il reçoit de la tradition.